bouillon de lecture. Bouillon de lecture, votre émission mensuelle destinée à vous faire découvrir un livre, à vous le faire aimer pour vous donner envie de le lire à votre tour, éventuellement. Donc installez-vous confortablement dans votre canapé. Hervé et Catherine vont vous lire des extraits du livre qu'ils ont choisi aujourd'hui. Bonjour Hervé, bonjour Catherine.
Bonjour Dominique.
Eh bien, qu'avez-vous choisi de nous lire aujourd'hui ?
C'est simple, aujourd'hui on va lire à deux.
Oui.
Et si on va lire à deux, c'est parce qu'on a choisi un roman épistolaire avec des personnages qui se répondent. Autrement dit, ce sera tantôt l'un, tantôt l'autre.
Exactement. Nous avons choisi un roman de Cécile Pivot qui s'appelle « Les lettres d'Esther », publié en 2020 aux éditions Kalman-Lévy. Et je crois que le mieux pour présenter ce livre est de commencer par vous lire la quatrième de couverture.
En souvenir de son père, Esther, une libraire du nord de la France, Lille en l'occurrence, ouvre un atelier d'écriture épistolaire. Ses cinq élèves composent un équipage hétéroclite. Une vieille dame isolée, un couple confronté à une sévère dépression, un homme d'affaires en quête de sens et un adolescent perdu. À travers leurs lettres, des liens se nouent, des cœurs s'ouvrent. L'exercice littéraire se transforme peu à peu en une leçon de vie dont tous les participants sortiront transformés.
Alors évidemment, on prévient les auditeurs. Comme d'habitude, il n'est pas question de lire l'intégralité des échanges, puisque nous n'avons pas le temps dans une émission de une heure. Nous avons donc choisi avec Catherine deux personnages, la vieille dame qui s'ennuie et le jeune ado perdu, qui s'appelle Samuel. Tout comme ses parents, Samuel est perdu, donc, car son grand frère est mort il y a 2 ans d'un cancer. Sans l'avouer, non, il est en quête d'un nouveau sens à sa vie.
Quant à la vieille dame, oh, pas si âgée que ça tout de même, elle a 67 ans, à vous de juger. Hein.
Non, c'est
elle
pas
a
si
été,
vieux.
Hein,
c'est pas si vieux, 67
ans. C'est ridicule. Hein. Elle a été musicienne, pianiste, avant d'être atteinte d'arthrite, ce qui l'a obligée à arrêter de jouer. Elle occupe ses jours par un militantisme écologique en s'occupant d'animaux abîmés. Cette vieille dame s'appelle Camille. Enfin, avant que l'on commence, on ne vous livre pas non plus l'intégralité de leurs échanges. Donc, n'attendez pas l'exacte réplique à une lettre. Il s'agit plutôt de morceaux choisis. Jeanne à Samuel, Verjus-sur-Saône, le 6 février 2019. Bonjour Samuel. J'espère que vous ne serez pas trop déçu de recevoir une lettre de ma part. J'ai choisi de correspondre avec vous car la compagnie des jeunes me manque. Je ne vous en voudrais pas si vous ne me répondez pas. À votre âge, écrire à une personne âgée ne doit pas être une perspective bien excitante. Lorsque j'étais professeur de piano, je passais une bonne partie de mes journées avec des jeunes. Hélas, je ne donne plus de cours. Si j'avais eu des petits-enfants, ma vie aurait été différente. Ne vous inquiétez pas, hein. Je ne compte pas faire de vous un petit-fils de substitution. C'est ainsi et je l'accepte. D'ailleurs, c'est étrange. Les gens qui tiennent ce genre de propos fatalistes, « acceptez votre sort » ou « tel est votre destin », m'exaspèrent. Mais il m'arrive à moi aussi de parler ainsi, alors que je n'en pense pas un mot. Je n'ai pas de petits-enfants, cela me manque, je trouve que c'est injuste. Voilà qui est dit. Maintenant, vous n'allez pas me croire si je vous confie que je ne souffre pas de la solitude. Pourtant, c'est vrai. J'ai des amis, de nombreux animaux, je suis très active et ma foi, vivre seule n'a pas que des inconvénients. Qu'avez-vous pensé de notre réunion ? Je ne nous ai pas trouvés très à l'aise. Nous osions à peine nous regarder, nous sourire. Cela m'a rappelé le jour de la rentrée à l'école, lorsqu'avec les autres élèves, nous nous observions à la dérobée, curieux et méfiants à la fois. À mon grand étonnement, quand Esther nous a demandé de répondre à haute voix à la question « Contre quoi vous défendez-vous ?», nous avons tous exprimé des sentiments très personnels. Vous, par exemple, avez dit que vous vous défendiez contre l'envie de tout casser. Ah, Vous avez la vie devant vous, semblez intelligent, avec toutes vos capacités mentales et physiques, vous êtes beau par-dessus le marché. Pourquoi cette réponse, me suis-je demandé ? Vous êtes arrivé en retard, avec des pieds de plomb, comme si vous étiez contraint de venir. Les yeux rivés à votre téléphone, nous avez-vous seulement vu ? C'est pas un reproche, hein, mais j'en ai conclu qu'on ne vous avait pas laissé le choix. Quant à moi, vous ne vous en souvenez sans doute pas, mais j'ai répondu que je me défendais contre la colère. En étant aussi franche, je craignais de déplaire, mais comme nous avons tous fait des réponses qui allaient dans le même sens, aussi sinistres et inquiétantes les unes que les autres, comme c'est drôle quand on y pense, je me suis fondue dans le marasme ambiant. J'espère que vous m'écrirez. J'en serai fort heureuse. Amicalement, Jeanne.
Samuel à Jeanne, le 1er mars. Bonjour Jeanne. En fait, j'aime bien écrire sur des nappes en papier et comme ça ne vous dérange pas, je vais continuer. Ma mère me dit comme vous, sauf qu'elle, c'est en mode énervé, mais tu ne t'ennuies pas à force de ne rien faire ? Quand mon frère était à l'hôpital et que j'allais lui tenir compagnie l'après-midi, je trouvais le temps long. Je n'osais pas jouer sur mon téléphone. J'étais censé lui parler, mais je ne savais pas trop quoi lui dire. Je crois qu'il avait compris et que ça l'amusait. Julien avait 3 ans de plus que moi. Il avait un cancer depuis longtemps. Il est mort le 25 octobre 2017, à 21 ans. Enfin, presque. Il les avait eus la semaine d'après. Je me suis aperçu il n'y a pas longtemps que je ne sais pas depuis quand il était malade. J'ai l'impression qu'il l'a toujours été. De l'avoir connu que comme ça, mais peut-être que je me trompe. Un cancer laissait la place à un autre cancer. Il est peut-être né en bonne santé, normal. Un petit garçon comme les autres, comme moi. Ce sont des questions que j'ai commencé à me poser après sa mort. Avant, non. Pour moi, c'était comme s'il avait toujours été malade et le serait toute sa vie. Je n'ai pas pensé qu'un jour il pourrait guérir ou mourir. Je n'ai pas les réponses. Je ne peux pas en parler avec mes parents. On ne parle plus de lui. C'est devenu tabou. Je me demande comment on en est arrivé là. Quelque part, ça m'arrange. Je ne savais pas quoi faire du chagrin de ma mère. J'ai rien pour la consoler. Pas les mots, pas les gestes. Et je me sens encore plus une merde. Je l'entends pleurer dans son lit avant que mon père la rejoigne dans la chambre. Avant, ils se couchaient en même temps. Elle essaie de ne pas faire de bruit, mais je l'entends. Nos cloisons, c'est du papier à cigarette. Je reconnais ce bruit-là, celui des sanglots qui s'étouffent et meurent contre un oreiller. J'ai grandi avec, en fait. Des fois, ça me donne envie de tout casser. Des fois, ça me donne envie de tout chialer. Depuis que Julien est mort, la crise de larmes de ma mère, tous les soirs, c'est devenu une manie. Mon père, lui, il s'est refermé sur lui-même. Il prend des médicaments pour tenir le coup. Avec ma mère, ils se disent le minimum. J'essaie de me rappeler comment ils étaient avant la mort de Julien. En fait, ils parlaient que de ça. Les derniers chimios, le nouveau protocole, lequel des deux pouvait se libérer pour l'accompagner chez son kiné, à l'IRM. Julien prenait toute la place entre mes parents et moi, mais aussi, je me rends compte maintenant, entre mon père et ma mère. Mon père n'arrive plus à dessiner. Moi, je n'arrive pas à pleurer. C'est comme si tout s'était bloqué le jour où mes parents m'ont annoncé que c'était fini. J'ai pensé que de toute façon, il n'y aurait personne pour me consoler. Je ne voulais pas rajouter ça à mes parents, du chagrin au chagrin. Tous les trois, on a fait pareil. On a pleuré chacun de notre côté pour nous épargner les regards des autres. Je suis allé dans la forêt pour crier. Rien n'est sorti. Un soir, j'ai bu. Vous pouvez pas imaginer, j'ai même pas réussi à vomir. J'ai eu la barre pendant 2 jours. Mon corps est comme une forteresse. Il me fait tellement mal, je suis crispé constamment aux aguets. Je sens que si je relâche, je pourrais faire une connerie, tout casser. Je ne devrais pas vous raconter ça, c'est pas vos histoires, mais vous vouliez savoir pour mon envie de tout casser. Non, je n'ai pas d'animaux, j'aimerais bien avoir un chien. Vous savez quoi comme animal ? Il est mort de quoi votre mari ? En tout cas, moi, je veux jamais d'enfant. Vous me demandez ce que je fais la journée, ça dépend. Je vois mon copain Ben. Ensemble, on regarde Game of Thrones. Mais en ce moment, il travaille dans un restaurant. Et c'est pas évident de se voir. Je geek pas mal. Je fais des courses pour ma mère. Je lui rends des services quand elle me le demande. Je lis pas. Je regarde pas mal de séries, c'est vrai. Je suis devenu accro avec Engrenage. Mais ça date. Comme mon père rapporte Le Parisien, je jette un œil. Franchement, les livres, c'est pas trop ma cam. Je me vois pas bien dans une librairie ou dans une bibliothèque. Ça m'impressionne, ce genre d'endroit. Je saurais pas quoi faire de moi, quoi choisir. Les études, c'était pas pour moi. J'étais nul. Quand Julien est mort, ça ne s'est pas arrangé. Je me suis fait virer à la fin de ma seconde. Ma mère a cherché à m'inscrire dans un lycée privé, mais je lui ai demandé de me laisser tranquille jusqu'à la fin de l'année. Elle a accepté. De toute façon, elle s'en foutait. Total, quand elle et mon père sont devenus sur le sujet, j'ai dit non, fini le bahut. Je vais plutôt trouver une formation. Moi, la vérité, c'est que j'ai pas cherché. Ça fait un an et demi et j'en suis au même point. Samuel.
Tota mami na pashulale, tu ni animaleno. Tota mami na pashulale,
tota mama, pusiku ina kuya, musika weyo.
Pusiku ina fika,
la la we.
Tota mami na pashulale,
tota mama we.
Tu ni animaleno.
Papa, dunia, mi mambo mingi mtota mama. Mapendo njo mwisho, penye Mungu alituomba di. Yeah, yeah, yeah.
Usiku inafika,
yeah, yeah.
Tota mami na pashulale, dunia ni maneno. Tota mami na pashulale.
Tota mama, mlalai, kesho ni kesho, aweye.
Usiku inafika,
mlalai,
tota mami na pashulale. Dunia ni maneno,
yo, 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 yo.
Tota mami na pashulale.
Toto mlalawe, dunia ni mambu, mambu die.
Eh bien, ces deux lettres semblent être des lettres de présentation, hein, où les deux auteurs abordent leur vie respective, mais en restant assez neutres. Pourtant, Camille parle d'une réunion à laquelle ils ont tous les deux participé. Ils se connaissent donc.
En effet, Esther, l'organisatrice, voulait commencer l'atelier d'écriture en organisant une réunion dans un hôtel de la région parisienne, je crois, même à Paris, intramuros, il me semble, afin que les 5 participants apprennent à se connaître pour pouvoir choisir 2 correspondants parmi le groupe. Et seulement 2 participants, parce que s'ils écrivaient à tout le monde, ça faisait beaucoup de lettres. Chacun ne pouvant pas écrire à tout le monde.
Petite annonce. Je n'étais ni auteur ni professeur. Il allait falloir rassurer les postulants sur ma légitimité. Je comptais faire appel à mon expérience de documentaliste sur des recueils épistolaires, leur citer mes préférés, correspondances de François Truffaut et lettres à Lou de Guillaume Apollinaire. Leur parler aussi des ateliers d'écriture que j'organisais à Lille dans ma librairie « C'est à lire », le soir après la fermeture, animé par des écrivains du Nord. Avec un sujet comme la correspondance épistolaire, je craignais de n'attirer que des vieux esseulés qui profiteraient de l'occasion pour exhumer de leur tiroir leur papier à lettres jauni et dérouler leurs souvenirs sans souci de l'autre et de la conversation. J'avais une idée assez précise de la manière dont je voulais que fonctionne mon atelier. Le 5 janvier 2019, l'annonce que j'avais mise en ligne quelques jours plus tôt sur le site de ma librairie apparut dans 4 quotidiens régionaux. Pour plus d'impact, on m'avait proposé une offre couplée. Quand j'avais appelé le service publicité de la Voix du Nord, « Apprenez à mettre en forme vos pensées, à raconter une histoire et à parler de vos émotions en vous inscrivant à un atelier d'écriture consacré au genre épistolaire. » Possibilité d'y participer quel que soit votre lieu de résidence, du 4 février au 3 mai 2019. J'avais reçu une 20aine de réponses. Les candidats étaient de tous âges, un peu plus d'hommes que de femmes. À chacun, j'ai déroulé le même discours. Esther Urbain, libraire à Lille, documentaliste et correctrice pour l'édition, spécialisée dans les correspondances. Je les ai prévenus que j'animais un atelier d'écriture pour la première fois et que mon rôle consisterait, tout en respectant leur personnalité, à travailler leurs textes avec eux, notamment en les aidant à trouver le mot juste et à donner du rythme à leurs phrases. Pour cela, il me faudrait avoir accès à leur courrier. Je prévoyais une rencontre à Paris le mois suivant, qui serait probablement la seule, puisque je comptais leur faire un retour par téléphone ou par mail à chaque lettre. Juliette et Nicolas Estover m'ont envoyé un mail, chacun de leur côté, à quelques heures d'intervalle. 4 autres personnes ont suivi. Jean Beaumont, un homme d'affaires qui passait sa vie à voyager. Alice Pancrol, hypnothérapeute lyonnaise. Samuel Dian, un jeune garçon qui s'est contenté d'un « Pourquoi pas votre atelier, puisque je dois trouver un truc à faire ?» Jeanne Dupuis, la plus enthousiaste, dont on entendait à la voix qu'elle n'était plus toute jeune. J'avais espéré que nous serions plus nombreux. Pas un, constatai-je étonné, ne parlait d'écrire un livre ou n'avait un manuscrit en sommeil dans un placard. N'était-ce pas la motivation principale des participants à un atelier d'écriture ? Peut-être celui-ci, autour de la correspondance, suscitait-il des attentes différentes ? Je me demandais lesquelles. S'accorder sur un jour, une heure et un lieu où nous retrouver à Paris ne fut pas facile. Seule Jeanne Dupuis n'a posé aucune condition. Elle était libre comme l'air, me dit-elle en riant au téléphone. Jean Beaumont m'avait prévenu qu'il serait en déplacement et ne pourrait être des nôtres. Nous convînmes finalement d'un rendez-vous le 31 janvier à 18h30 au Hoxton, un hôtel-restaurant branché du sentier, avec une cour intérieure, un jardin d'hiver et de nombreux coins-salons. Il m'avait été conseillé par Raphaël, mon cousin. J'en profitais pour passer 2 jours chez lui, qui habitait pas loin de là. Avant notre réunion, j'envoyais un email aux 6 participants leur demandant de réfléchir à la question suivante. Contre quoi vous défendez-vous ? S'ils étaient d'accord, ils devraient en quelques mots énoncer leur réponse à haute voix devant les autres. J'aime cette question parce que je suis convaincue que nous nous défendons tous contre quelque chose. Et aussi parce qu'elle laisse une grande liberté à celui qui répond. Il peut être évasif, avancer un lieu commun ou au contraire dévoiler une part plus intime de ce qu'il est.
Oh, 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 qui ne s'est jamais laissé enchaîner? Jamais ce qu'est la liberté. Moi, oui, je le sais, je suis un évadé. Oh, 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 faut-il pour voir un jour un ciel tout bleu? Ciel noir 3 jours sur 2. Je l'ai supporté, je suis un évadé. j'ai ses emprisonnés. Oh, 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 pour connaître le prix de la liberté. Moi, je le connais, je suis un évadé.
On va maintenant faire un saut dans le roman, si tu le veux bien, Dominique. Petit à petit, les gens apprennent à se connaître et ils se livrent, oui, on peut le dire comme ça. C'est-à-dire qu'ils osent écrire ce qu'ils n'ont pas l'occasion ou n'osent pas dire à leurs proches. Par ce biais, par les lettres, donc, on découvre le pouvoir des lettres. Quand je dis lettres, ça peut être des SMS, des mails ou des lettres papier. On ne dit pas la même chose à l'écrit ou à l'oral. En effet, dans une lettre, puisqu'on n'a pas notre interlocuteur directement en face de soi et qu'on peut prendre le temps de peser ses mots, eh bien on se met à écrire, c'est-à-dire à dire des choses qu'on ne dit pas en direct. C'est logique. Et donc ces personnes qui ne se connaissaient pas 2 mois auparavant vont apprendre à mieux se connaître eux-mêmes grâce aux échanges épistolaires et même commencer à se donner des conseils. C'est plus facile quand on n'a pas l'autre en face de soi.
Jeanne à Samuel, Verjus-sur-Saône, le 20 mars 2019. Cher Samuel, emprunter les livres de votre frère pour vous mettre à la lecture est une belle initiative. Il sera votre guide. Peut-être de son vivant aurait-il aimé tenir ce rôle. Je comprends que vous vous posiez la question de la place que vous occupez dorénavant au sein de votre famille. La réponse n'était déjà pas évidente quand votre frère était là. Bien entendu, cette place aurait été différente s'il n'avait pas été malade. C'est ainsi et vous n'y pouvez rien. Vous avez l'air de penser, Samuel, que vos parents vous aiment moins, voire que vous n'existez plus pour eux depuis que votre frère est mort. Aimez-vous moins vos parents ? Je suppose que non. Mais vous les considérez différemment. Ils avaient 2 enfants, ils n'en ont plus qu'un. Vous étiez 4, vous êtes 3. Votre cellule familiale a été bouleversée. Elle reprendra ses marques autrement. Vos parents sont accablés par le chagrin. Ils n'ont plus les mots et les gestes. Ne croyez-vous pas que, comme vous, ils ont peur de mal faire ? Ah, le temps n'est pas toujours notre ami, Samuel, mais dans votre cas, il l'est. Soyez patient, profitez-en pour lire. Et puis faites-moi plaisir, arrêtez de culpabiliser. Vous avez voulu récupérer la chambre de votre frère, souhaiter qu'il disparaisse parce qu'il était l'objet de toutes les attentions, une source d'inquiétude permanente pour vos parents et pour vous. Qu'on en finisse, vous êtes-vous dit. C'est humain. Vous n'avez pas précipité sa mort. Ou alors c'est que vous détenez un pouvoir inouï dont il ne vous faudra pas abuser. J'ai lu « L'ami retrouvé » il y a des années. C'est un livre qu'on n'oublie pas et un classique. L'avez-vous terminé, Jeanne ?
Samuel à Jeanne, le 23 avril. Il faut que je vous raconte la conseillère d'orientation. Pour calmer mon angoisse, je me disais que je m'en foutais, que ce serait vite plié, que j'y allais juste pour faire plaisir à mon père. Ça marchait pas, je stressais grave. J'avais rien à lui dire, moi, à cette femme. Ça doit faire pareil quand on passe un examen et qu'on n'est pas prêt. Et puis, je ne voulais pas remettre les pieds dans un bahut. C'était pas celui où j'allais avant. J'aurais refusé. Je peux pas dire qu'elle m'a plu dès que je l'ai vue, Madame Dablon. Elle est comme j'aime pas, maigre et sèche, avec les cheveux super courts, des yeux comme des lasers. Ça n'a rien à ranger. Elle m'a dit qu'elle était là pour m'aider à voir plus clair dans mon avenir, à répondre à mes questions si j'en avais. Tout ce que je voulais lui demander, c'est combien de temps ça allait durer. Mais je me suis retenu. Il ne fallait pas que je la mette à dos, à cause de mon père. Au début, on a discuté de tout et de rien, ce que je faisais dans la journée, les séries que j'aimais. Elle aussi, elle en regarde Peaky Blinders, Narcos. Ça m'a étonné qu'elle me parle de ça. Elle a compris que j'étais mal à l'aise, elle essayait d'être sympa. L'atelier d'écriture, ça l'a amusée. Je voyais pas ce que ça avait de drôle. Pour moi, c'est sérieux. Je lui ai dit que c'est pas évident d'écrire, mais que j'aime ça de plus en plus. Je lui ai parlé de vous, Jeanne, que je m'étais mis à lire aussi. Elle a voulu savoir quel genre de livre, si j'avais envie de continuer quand l'atelier serait fini. Je lui ai dit que oui, qu'il n'y avait pas de rapport entre les deux. Je ne lui ai pas parlé des livres de mon frère. Une heure après, j'étais encore dans son bureau, j'en pouvais plus. Je me demandais où elle voulait en venir avec toutes ces questions. C'est là qu'elle a proposé de me revoir. Nous discuterons de votre avenir, des orientations possibles. En attendant, pensez à tout ce que vous aimeriez faire dans la vie. Quelles études, quels métiers, quels sports. Tout ce qui vous passe par la tête, notez-le sur une feuille. Je vais réfléchir de mon côté. Mais tout ce qui me passe par la tête, je vous le dis déjà à vous, je me vois en train de lui tendre une feuille blanche. C'est comme si j'y étais. Je ne pensais pas qu'il y aurait un deuxième rendez-vous. La galère. Plus je lis « Pour qui sonne le glas », plus je trouve que c'est bien. Même l'histoire d'amour, elle est pas mal. Samuel.
Singular, compleja en su calma y tempestad. Dime, ¿por qué será? Dime, ¿por dónde vas? Dime. Y en el amanecer, cuando todo va a cambiar, a aparecer un mundo lleno de belleza y de dolor. Dime, ¿por qué será? Dime, ¿por dónde vas? Dime, ¿de dónde somos? Dime. Y dime, ¿por qué será? Dime, ¿en dónde estamos? Dime. Pertenecer a la gente del libro, pretendiendo entender los enigmas del universo. Dime, ¿por qué sé?
Comme nous sommes dans un atelier d'écriture, Esther, l'organisatrice, glisse des contraintes, comme dans tout atelier d'écriture. Par exemple, écrire un dialogue ou un monologue. Ou alors, imaginez qu'on est 10 ans plus tard, en 2029.
Jeanne à Samuel, Verjus-sur-Saône, le 30 avril 2019. Voici ma lettre 10 ans plus tard. Cher Samuel, je vous souhaite une belle année 2029. Que de chemin parcouru depuis nos premières lettres. J'ai eu un mal fou à poster celle-ci. Les bureaux de poste se font rares. Vous qui doutiez tellement de vous, vous avez trouvé votre voie. Vous voyez, Samuel, qu'on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. On croit maîtriser le cours des événements, présents et à venir, mais lorsqu'on se retourne, on constate que le chemin n'est pas tout à fait ou pas du tout celui que nous avions au choix envisagé, rêvé ou redouté. Vous avez commencé à mettre un pied devant l'autre le jour où vous avez fait le deuil de votre frère et arrêté de culpabiliser. Profitez-en. Mais n'imaginez pas que votre succès est acquis, que les choses sont installées pour de bon. Elles ne le sont pas. Si vous vous en donnez les moyens et si c'est ce que vous souhaitez, vous connaîtrez d'autres grandes satisfactions, d'autres mauvaises surprises aussi. On ne voudrait que les premières, mais elles ne vont pas sans les secondes. C'est le prix à payer. Ne baissez pas la garde, je n'ai pas d'autres conseils. Jeanne.
Samuel à Jeanne, le 8 mai. Jeanne. J'ai revu Madame Dablon. Je n'avais rien préparé. Je n'aime pas penser à mon avenir parce que je n'ai envie de rien. C'est bizarre et flippant de ne s'imaginer nulle part. Elle n'a pas eu l'air étonnée que je vienne les mains vides. Elle me conseille de passer mon bac par correspondance. Elle dit que ce n'est pas facile de réviser seul, mais qu'on est suivi et que j'ai les capacités pour y arriver, que c'est une question de volonté. Je vais réfléchir. Ma lettre 10 ans plus tard. L'autre jour, je suis passé voir mes parents. Je ne sais plus comment c'est venu dans la conversation, mais on a parlé de Julien. On s'est avoué qu'on avait de plus en plus de mal à se souvenir de son visage. Il a suffi de 12 ans, c'est pas beaucoup, pour qu'il devienne flou, qu'on oublie les détails, comme le son de sa voix. Ma mère ne pleure plus avant de s'endormir. C'est mon père qui me l'a dit. De toute façon, je ne suis plus là pour l'entendre. Là où je vis, au bord de la mer, je me tiens éloigné des nouvelles, petites et grandes. J'ai choisi cet endroit exprès, parce qu'ici c'est possible. Je fais tout pour que rien ne m'atteigne. Je n'y arrive pas tout à fait. Je vois bien que notre terre est en train de crever. La couleur sale du ciel se confond avec celle de l'horizon. C'est le même gris partout, qui nous empêche de voir, qui pique les yeux et la gorge. Le même qu'après un incendie, sauf que ce gris-là, le vent ne le disperse pas. Je l'appelle le gris catastrophe. La mer dépose de plus en plus de détritus. Certains matins, elle donne l'impression qu'elle ne va plus y arriver, qu'elle va se figer d'un coup. C'est sa façon à elle de nous dire qu'elle jette l'éponge et de nous planter là, nous et nos merdes. Je sais déjà la phrase que je prononcerai quelques minutes avant que la mer ne meure. Tiens, c'est bizarre, on n'entend plus le bruit des vagues. Nous avons vécu cette période-là où il n'y a plus d'espoir de retour en arrière. Le mal est fait, il est trop tard pour le réparer. Vous croyez qu'il reste des coins que les hommes n'ont pas salis ? C'est sûrement la dernière lettre que je vous envoie. Ils vont définitivement supprimer les boîtes aux lettres dans quelques jours. C'est pas plus mal, parce que ça a été une vraie galère de trouver un timbre. Quand j'ai demandé, on m'a regardé bizarre. Pas grave, puisqu'on se voit bientôt. Samuel.
Autre contrainte proposée par Esther, par exemple, d'écrire un voyage.
Samuel à Jeanne, le 11 mai. Bonjour Jeanne. Je sais que je vous ai écrit il y a à peine 3 jours, mais il fallait que je vous raconte. Au bout de la dernière étagère, mon frère rangeait ses guides touristiques. Il y en a 3, les 3 sur le Japon. Je ne les avais pas remarqués jusque-là. Hier matin, je les ai feuilletés et je me suis rendu compte que Julien les avait lus de la première à la dernière ligne. Il avait entouré le nom des temples, des musées, des rues, des îles. Tous les endroits qu'il aurait visités s'il y était allé. Enfin, j'imagine. C'est vrai qu'il lisait beaucoup de romans japonais. Vous verriez ces guides, on dirait qu'ils sont à quelqu'un qui va là-bas tous les ans. À mon avis, c'était son secret. Il devait se dire que s'il guérissait, il ferait le voyage. À la fin, il y a un lexique avec des mots en japonais. Il en a entouré certains. Peut-être qu'il les connaissait et qu'on ne le savait pas. Dans un des guides, j'ai trouvé un article que Julien avait découpé dans un journal. Le téléphone qui parlait aux morts, c'est un truc de ouf. Je vais essayer de vous le résumer parce que ça m'a donné une idée. Au Japon, dans la région de Tohoku, le tsunami de 2011 a englouti 20 000 personnes, dont la moitié des habitants du village d'Otsushi. Un type, Hitaru Sasaki, y a installé une cabine téléphonique. Les fils de son téléphone ne sont reliés à rien, c'est pour ça qu'on l'appelle la cabine du vent. C'est lui qui l'a construite dans son jardin après la mort de son cousin d'un cancer. Pour continuer à lui parler. Puis, il y a eu le tsunami qui lui a pris son meilleur ami. Le jour où ils ont retrouvé son corps, 2 mois plus tard, il est allé dans la cabine pour lui parler. Les autres habitants ont commencé à venir dans la cabine, à l'imiter avec leur propre mort, à leur écrire aussi, parce qu'il avait mis à leur disposition un cahier du téléphone. Il en est au 11e tome. Il y a des photos dans ces carnets. Des journalistes ont signé des articles sur cette cabine et des étrangers qui veulent parler ou écrire à leurs proches ont fait le voyage. Le correspondant de l'Obs écrit que le téléphone du vent, c'est une sorte de poste restante pour l'au-delà. Ils ont enregistré les gens dans la cabine, en ont fait un documentaire. Un vieil homme à son épouse. « Il fait froid aujourd'hui, mais tu n'as pas froid, toi, là où tu es, je l'espère. Reviens bientôt, tout le monde t'attend. Je vais construire une maison au même endroit pour nous. Mange, sois vivante. » Quand j'ai fini de lire l'article, j'ai regardé la date, ça m'a fait froid dans le dos. C'était 3 semaines avant la mort de Julien. J'ai passé la nuit à cogiter, puis j'ai pris une décision. Le soir, mes parents m'attendaient pour le dîner et je leur ai tendu les pages. J'avais la voix qui tremblait. Je n'étais pas à l'aise, je me sentais très con. Mais il fallait que j'aille au bout. C'est un article que j'ai trouvé dans la chambre, dans l'un des guides sur le Japon. Regardez quand il a été écrit. J'aimerais bien qu'on aille là-bas tous les trois. Je crois que c'est ce qu'ils voulaient. C'est mon père qui a pris l'article. Ma mère s'est levée pour se rapprocher. Ils l'ont lu ensemble, elle debout penchée au-dessus de lui. Mon père a terminé avant elle. Il n'a rien dit. S'est levé et est allé s'enfermer dans la salle de bain. Sans un regard pour moi. Ma mère pleurait. Elle s'essuyait tout le temps les yeux. Les larmes la gênaient pour lire. Je savais que s'il disait non, ce serait pas pour une question d'argent. Il ne comprendrait pas, refuserait d'entrer dans mon délire ou aurait peur de ce truc morbide. Ils sont pas riches, mes parents, mais ils dépensent pas beaucoup et nos vacances coûtent pas cher. On allait chez mes grands-parents maternels en Dordogne, c'était tout. On n'osait pas voyager à l'étranger à cause de Julien. Mon père est ressorti de la salle de bain. Lui aussi avait pleuré. Il m'a regardé. « Si ta mère est d'accord, on peut partir cet été. »« Margot ?» Elle m'a regardé, m'a souri. « Un voyage au Japon avec mes hommes, je ne demande pas mieux. Elle est où exactement cette cabine ? Tu nous fais voir les guides ?» Je me suis demandé si les hommes de ma mère étaient 2 ou 3. Ce serait logique qu'ils soient 3. Samuel.
Jeanne à Samuel. Verjus-sur-Saône, le 16 mai 2019. Cher Samuel, j'ai regardé sur Internet à quoi ressemble la cabine téléphonique. Elle est jolie avec son toit vert et ses murs blancs. Je vous imagine à l'intérieur. Waouh ! Vous avez fait preuve d'un sacré courage en proposant ce voyage à vos parents. Vous allez partir avec eux et ensuite, vous passerez votre bac. Je l'espère, vous en êtes capable. Logiquement, cette lettre est la dernière que je vous envoie dans le cadre de notre atelier. Si vous souhaitez que nous continuions à nous écrire, j'en serai très heureuse. Racontez-moi au moins votre périple au Japon. Vous me parlerez de la cabine du vent. J'espère de tout cœur avoir de vos nouvelles. La vie vous attend, Samuel. Vous avez compris qu'il faut parfois être courageux, audacieux, pour obtenir ce que l'on veut. Tenez-vous debout dans la lumière, Jeanne.
Pour en avoir discuté avec Catherine, on a fait un parallèle entre ce roman et l'excellente série sur Arte, En thérapie, où des personnages que rien ne prédestine à se connaître se trouvent pourtant réunis dans un cadre quelconque. Le cabinet d'un psychiatre, pour En thérapie, ou cet atelier d'écriture. Petit à petit, ces personnes se découvrent et se révèlent et voient leur vie se modifier, même de façon imperceptible. Mais puisque nous ne sommes pas dans un univers fictif à la Game of Thrones, il faut bien qu'il y ait une fin. Nous allons donc redonner la parole à Esther, l'organisatrice, qui va se charger de nous ramener à la réalité.
Les semaines qui ont suivi, elle a attendu la réponse de Samuel. En vain. Dès la fin de l'atelier, il semblerait que le jeune homme ait posé son stylo, rangé ses nappes en papier et oublié Jeanne. Elle est déçue. Elle se demande s'il ne lui a pas écrit pendant 3 mois que parce qu'il n'avait pas le choix. Non, se raisonne-t-elle, c'est impossible. Il n'était pas obligé de lui raconter sa dernière initiative. Elle aurait aimé poursuivre leur correspondance, qu'au moins il lui dise au revoir. « C'est la dernière lettre que je vous envoie », lui a-t-il écrit dans sa lettre 10 ans plus tard. Cette phrase ne relevait donc pas de la fiction.
Rassurez-moi, vous n'avez pas lu la fin du livre.
Oui, on n'a pas le droit. Hein. Non, hein, Catherine, on n'a pas lu la fin du livre. Non. On a choisi une fin pour l'émission, mais qui n'est pas la fin du roman. Si vous voulez savoir, là je m'adresse aux éditeurs,
aux auditeurs.
Si vous voulez savoir la fin du roman, je m'adresse, eh bien vous n'avez qu'à lire cet excellent roman.
Bien, très bon conseil, Hervé. Merci alors Hervé et Catherine pour cette lecture à deux voix. Et je rappelle le titre, il s'agit des Lettres d'Esther de Cécile Pivot, paru aux éditions Kalman-Lévy en 2020. Juste une petite question, Pivot, il y a un rapport avec Bernard?
Bah, oui, c'est sa fille.
Ah, évidemment. Très bien, eh bien, chers auditeurs et auditrices, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une autre lecture. Et je vous dis au mois prochain. Au revoir Hervé, au revoir Catherine.
Au revoir.
Et à bientôt.
À bientôt.